Nous sommes dans cette série sur le thème des proverbes et vraiment une série formidable. Ça se termine déjà la semaine prochaine. Et on a vu plein de choses ensemble sur ce thème-là. Et aujourd'hui, j'ai un message qui, je pense, va être pertinent et pourrait être extrêmement important pour plusieurs d'entre nous. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va éplucher les proverbes à la recherche de sagesse pour nous aider à réussir dans nos relations interpersonnelles. Pendant la pandémie, vous savez, une des choses qui s'est passée, c'est que nous avons été plusieurs fois isolés sur des longues périodes. Et là, on est retourné parmi les êtres humains, on a été réisolés et on a été un peu, pour moi et pour plusieurs d'entre nous, déboussolés dans comment on se comporte avec les êtres humains. Hein, des fois, même à l'église, on arrive devant quelqu'un. Est-ce que je serre la main? Est-ce que j'y tends le poing? Deux becs, pas deux becs. Deux mètres de distance, on fait quoi? Comment on réagit avec les êtres humains? Et bien sûr, il y a une tendance tranquillement un retour à la normale, si on veut. Mais quand même, ça crée certains malaises et on a besoin de réapprendre à redevenir ces êtres sociaux tout en respectant les autres, bien sûr. Et le livre des Proverbes est formidable parce qu'il est rempli, il y a une multitude de conseils pour nous aider dans nos relations. Et aujourd'hui, on va voir en rafale, OK? Je me suis dit, est-ce que je creuse un ou deux thèmes? Non, aujourd'hui, je ne creuse pas. Aujourd'hui, on survole et on va voir en rafale une quantité astronomique de conseils. Et je t'invite là, à saisir, à pogner au vol les conseils alors que je vais les lancer dans la salle ce matin et les appliquer à ta vie de couple. Et les appliquer à ta vie, à tes relations avec tes amis d'amitié. À les appliquer à tes relations aussi familiales, avec tes enfants, tes parents, frères, sœurs, oncles, tantes, peu importe, toutes les relations familiales qui existent. Et aussi à les appliquer à tes relations avec tes frères et sœurs chrétiens. Vous savez, c'est riche ce que nous avons ici ce matin. L'Église. La famille de Christ, la famille de Dieu, c'est extrêmement riche. Et nous sommes appelés comme croyants à prendre soin des relations que nous avons les uns avec les autres. Est-ce que vous êtes prêts à recevoir la parole de Dieu ce matin? Si tu es prêt, laisse-moi voir tes deux mains comme ça. Je suis prêt, dis, je suis prêt. D'accord, parfait, c'est un départ. Donc, on va voir ce matin des conseils généraux qui s'appliquent à la plupart de nos relations. On va voir quelques éléments pour mieux réussir son mariage, mieux réussir sa relation avec ses enfants et mieux réussir ses amitiés. Est-ce que vous êtes prêts? On plonge, là. C'est parti. Premier conseil dans les Proverbes, se retrouve dans Proverbes 16, verset 20, ça dit ceci. « Celui qui se montre attentif à ce qui est dit trouve le bonheur, et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. » Premier conseil ce matin, être à l'écoute des autres, être à l'écoute des autres. Est-ce que d'autres personnes comme moi, que ce n'est pas leur force de base d'être un super écouteur? Et, j'ai vu une scène où quelqu'un a levé la main de son conjoint comme ça. Soyez doux avec les papas ce matin, s'il vous plaît. C'est la fête des pères. Hein, nous avons deux oreilles et une bouche. Hein? Vous avez déjà entendu ça? On est appelé à écouter deux fois plus qu'on parle. Ça, c'est de la sagesse. Ça, c'est de la sagesse des proverbes. Appelez à être à l'écoute des autres. Moi, j'ai une tendance à prendre beaucoup de place dans un groupe, à parler beaucoup. Si personne n'occupe l'espace sonore, je vais l'apprendre, l'espace sonore. OK? Je vais parler. Et une des choses que ma femme m'a appris, c'est comment me comporter dans un groupe. Chance qu'elle est là. Une chance qu'elle est là. Chance qu'on ça. Il y arrivait des fois dans des soupers avec des amis. Je ne sais pas pourquoi, mais pendant que je parlais et que j'expliquais toutes sortes d'affaires de ma vie, je mangeais des coups de pied en dessous de la table. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont déjà vécu ça, de manger un coup de pied en dessous de la table? Hein? Oui. Non, voyons, là, je dis, mais qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai fait? Puis après, dans des discussions ensemble, elle m'expliquait, mais regarde, tu prends trop de place, donne la place aux autres, intéresse-toi aux autres, écoute ce qu'ils ont à dire. Je dis, ben oui, ça, c'est un bon conseil. Et là, quand on reçoit des gens maintenant à la maison pour un souper, pour quelque chose, je veux pas trop avoir de bleu sur les jambes, d'accord? Donc, je me mets des pads. Non, c'est pas vrai. Donc, ce que je fais, c'est que j'essaie de mieux écouter les autres, de m'intéresser aux autres, de moins parler de moi, mais quand même, je parle un peu de moi quand même, là, tu sais. Puis à la fin, des fois, je demande à ma femme, « Puis comment j'ai fait ça? » Puis elle va me le dire. Hein? Elle va me le dire si ça a bien été ou moins bien été. Tu veux réussir dans tes relations, sois à l'écoute des autres. Hein? Prends pas toute la place dans les discussions, intéresse-toi à l'autre. On peut dire « Amen? » Premier conseil coché, schlack. Deuxième conseil, veillez sur nos paroles. Ouf! Les proverbes regorgent de textes qui nous parlent de prendre soin, de faire attention à comment on parle et tout ça. Et d'ailleurs, la semaine prochaine, il va y avoir un message complet sur ce thème-là qui va être formidable. Je vous lis juste trois proverbes rapidement, juste pour nous mettre en appétit sur ce thème-là. Proverbe 10:10. Celui qui parle comme un fou court à sa perte. La bouche du juste est une source de vie. Proverbe 12:18. Celui qui parle à la légère blesse comme une épée, tandis que la langue des sages apporte la guérison. Les lèvres qui dit la vérité est affermie pour toujours, tandis que la langue mensongère ne subsiste qu'un instant. Proverbe 15:26. Les mauvaises intentions font horreur à l'Éternel, mais les paroles bienveillantes sont pures à ses yeux. Wow, hein? Tu veux réussir dans tes relations? Fais attention à ce que tu dis. Fais attention à ce qui sort de ta bouche. Vous savez, c'est une arme puissante, la Bible nous dit. La Bible nous dit qu'on peut tuer ou apporter la vie avec nos paroles. Que Dieu nous aide, que Dieu nous donne cette force de se maîtriser et de faire attention à ce qu'on dit aux gens qui nous entourent. Certains d'entre nous, c'est un problème qu'on a besoin de l'aide du Seigneur pour être meilleur dans nos paroles, moins critiquer, moins se plaindre, moins chialer, moins être méchant ou attaquer les gens, moins parler tout court pour certains, que Dieu nous aide à mieux contrôler nos paroles, que nos paroles soient des paroles de vie, que nos paroles soient des paroles qui bénissent et non qui maudissent. Est-ce que je peux entendre un amen de l'Église ce matin? C'est urgent de corriger le tir. C'est urgent de veiller sur nos paroles. Et ce matin, c'est un des conseils que les proverbes nous donnent. Autre élément, voir au-delà des apparences. Proverbe 14:13. Au milieu du rire, le cœur peut être dans la peine et la joie peut finir en tristesse. J'aimerais faire appel à la sensibilité, à votre sensibilité ce matin, que nous soyons à la recherche de relations avec les autres, de relations authentiques. Qu'on puisse, comme croyants, passer par-dessus la façade qui nous est présentée. Vous savez, tu peux dire allô à quelqu'un, tu peux dire comment ça va, la personne peut te sourire, te dire bien, mais en tant que chrétien, on est appelé à aller un peu plus loin que le sourire et le bien, et à voir, et à essayer de remarquer s'il y a des signes qui font que la personne a dit ça, elle montre ça, mais elle ne va pas. D'avoir cette sensibilité de l'autre. « Hey, tu dis que tu vas bien, mais t'es-tu sûr? Il me semble que t'as pas l'air à trop aller bien. Y a-t-il quelque chose que tu aimerais discuter avec moi? » On est appelé à avoir des relations authentiques. Aller au-delà de la façade. Au-delà, là, je ne dis pas d'ouvrir votre cœur à chaque 2 mètres que tu fais dans l'église sur tout ce que tu vis. Tu sais, des fois, c'est correct de dire « ça va ». Même si ce n'est pas la fin du monde, mais de prendre le temps avec quelqu'un, de t'ouvrir. Le point ici, c'est d'être sensible. D'être sensible. D'avoir les yeux ouverts, d'avoir les yeux laser qui va au-delà de ce que la personne nous présente. D'être là pour les autres. De dire des phrases du style « Aimerais-tu qu'on prenne un temps ensemble pour discuter? » Tu me dis que ça va, mais j'ai l'impression que ça ne va pas. Est-ce que je me trompe? De remarquer les gens autour de nous. Que l'Église soit un lieu où on se remarque que si quelqu'un ne va pas bien puis qu'il a besoin de prière, qu'il a besoin d'encouragement, puis qu'il vient à l'église, qu'il soit fait, parce que quelqu'un va le remarquer, puis parce que quelqu'un va prendre un temps avec. Êtes-vous là? Où il y a de la bienveillance dans l'église, où il y a de la compassion dans l'église, dans nos couples, dans nos amitiés, dans nos relations en général, de voir au-delà des apparences est un conseil que les proverbes nous donnent. Et parfois, ça peut même sauver des vies. Parce que quelqu'un peut avoir des pensées noires. Mais le Seigneur peut te révéler ou tu peux remarquer quelque chose qui va faire que la personne va s'ouvrir. Prochain conseil. Je vous ai dit, c'est en rafale ce matin, donc tu es mieux de saisir, tu es mieux de capter. Ça continue. Les relations nous forgent et nous forment. Proverbe 27, 17. Tout comme le fer aiguise le fer, l'homme s'aiguise au contact de son prochain. Dites avec moi, ouch! Ça, c'est bien plus facile de rester chez eux puis de ne pas voir d'être humain. Hein? C'est bien plus facile. Aussitôt que tu vois des êtres humains, il y a un potentiel de divergence, un potentiel de conflit, un potentiel de qu'on ne soit pas trop d'accord, qu'on ne s'entende pas bien, qu'on ne se comprenne pas. Puis là, ben, des fois, ça nous rend mal à l'aise, mais c'est au contact des autres qu'on est transformé à l'image de Dieu. Dieu a voulu que l'Église existe. Une des raisons, c'est pour qu'on soit transformé, pour qu'on puisse se parler les uns les autres, qu'on puisse se dire les vraies choses les uns aux autres. Et au contact des uns des autres, on est façonné, on est transformé. Des fois, ce n'est pas facile. Hein? Combien vous connaissez l'expression « Ah, lui, c'est mon papier sablé. Hein? » Ça, ça veut dire « Ah, cette personne-là, j'ai de la misère avec, je ne trouve pas ça facile. » Puis des fois, dans ces circonstances-là, ça nous amène à être plus souple, à être plus doux, plus à l'écoute, plus patient, plus en maîtrise de soi, tout ce que Dieu veut faire dans notre vie. La Bible dit « Le fer aiguise le fer. » Et j'ai amené ici un instrument. N'ayez pas peur, je vais faire de mal à personne. Un couteau de cuisine est communément appelé une queue de rat pour aiguiser les couteaux. Et ce couteau-là, il n'y a rien de pire que couper une tomate puis que ça ne coupe pas, ça écrase la tomate. Fuck! Ah. Tu vas faire des belles tranches, tu as un barbecue, tu veux mettre ça dans ton hamburger puis ça l'écrase. Donc, ce qu'on veut, c'est des couteaux qui coupent. On veut aiguiser les couteaux pour qu'ils coupent bien, pour qu'ils soient utiles. N'ayez pas peur, les gens qui me regardent, les couteaux. Non, 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 je vais leur ranger bientôt, là. C'est une illustration. Et dans notre vie, pour être efficace, pour entrer dans l'appel que Dieu a pour nous, pour être utile pour Dieu, on a besoin du contact avec les autres qui viennent nous façonner, qui viennent nous aiguiser, qui viennent nous forger. Et comme on a vu il y a quelques semaines, quand on est à l'écoute des autres puis qu'on est enseignable, on peut devenir un outil entre les mains de Dieu pour faire une différence dans ce monde. Est-ce que je peux entendre quelque chose dans ce lieu? C'est un peu comme la personne qui est bûcheron. Une des tâches les plus essentielles pour un bûcheron, c'est d'aiguiser sa scie à chaîne pour qu'elle fonctionne bien. Il n'y a rien de pire que de couper un bio de bois puis que ça ne coupe pas, puis là, tu forces dessus parce qu'elle est mal aiguisée. Donc, de prendre le temps de bien aiguiser sa scie à chaîne te permet d'être super efficace et dans nos relations les uns avec les autres, qu'on puisse comprendre que ça fait partie de la vie, qu'on s'aiguise les uns les autres, que c'est même le plan de Dieu pour nos vies et pour l'Église. Quand j'étais très jeune, il y a très, très longtemps, j'étais quelqu'un, et je suis encore un peu, mais j'étais quelqu'un d'être plutôt caractériel, qui peut exploser facilement, qui peut réagir promptement, qui peut se fâcher. Et alors que moi et Lisa, on sortait ensemble, on était amoureux, en voie de se marier et tout ça, donc ça fait longtemps. À un moment donné, je sais pas, on avait une discussion, puis je me suis fâché pendant la discussion, puis j'ai tapé sur la table. Et là, elle a figé, et là, j'ai vu qu'elle réagissait de façon un peu intense, puis j'ai dit, est-ce que j'ai mal agi, est-ce que c'était pas correct? Et là, on s'est parlé, puis là, j'ai compris que c'était trop intense, que c'était un geste de violence, qu'il ne faut pas faire ça dans un couple. J'ai dit, OK. Et à son contact, j'ai été façonné. Je suis devenu quelqu'un de plus doux, plus lent à la colère. Ça m'arrive d'être en colère des fois, OK, ça m'arrive, mais je suis plus lent à la colère. Et au contact des uns des autres, nous sommes façonnés. Nous sommes transformés. Et moi, je veux être façonné à l'image de Dieu. Je continue. Vous allez voir, c'est des conseils random comme ça. Prochain conseil, attention à la place que prend l'alcool dans notre vie et dans notre famille. Proverbe 23, verset 29. Pour qui les a, pour qui les hélas, pour qui les disputes, pour qui les plaintes, pour qui les blessures sans raison, pour qui les yeux rouges, pour ceux qui s'attardent auprès du vin, pour ceux qui vont déguster du vin mélangé. Ne regarde pas le vin parce qu'il est d'un beau rouge et qu'il fait des perles dans la coupe. Il s'avale d'un trait et il finit par mordre comme un serpent, par piquer comme une vipère. Tes yeux auraient alors d'étranges visions et ton cœur exprimerait le dérèglement. Tu serais pareil à un homme couché en pleine mer, à un homme couché au sommet d'un mât. On m'a frappé et je n'ai pas mal. On m'a battu et je ne sens rien. Quand me réveillerai-je, j'en veux encore. Et je trouvais ce proverbe-là intéressant dans cette prédication-là sur les relations. Parce que bien sûr, la Bible ne dénonce pas qu'on puisse boire de l'alcool, mais la Bible dénonce clairement l'abus d'alcool, de se saouler. Et dans ce texte-là et dans d'autres textes également. Et combien de fois j'ai vu des conflits de famille, des problèmes dans un couple, dans une famille, directement reliés à une surconsommation d'alcool d'un ou des deux ou de quelques personnes dans la famille ou dans le couple. Et c'est juste un rappel aujourd'hui. On veut réussir dans nos relations, faisons attention à notre gestion d'alcool, à comment on boit, d'accord? La modération a bien meilleur goût. Vous avez déjà entendu cette phrase-là en quelque part. Ils nous disent ça en nous vendant de l'alcool. Mais bon, le point est valable quand même. On peut déguster des bons vins, on peut aimer boire une bière, mais faisons attention de ne pas exagérer parce que c'est certain que ça va avoir un impact dans nos relations. C'est certain qu'on peut devenir dépendant et que ça peut créer des soucis dans notre vie. Un autre beau conseil qu'on retrouve dans les Proverbes. Le conseil suivant, 16:32 nous dit ceci, « La lenteur à la colère vaut mieux que l'héroïsme. Mieux vaut être maître de soi que de s'emparer des villes. » Et j'aime ça, j'aime l'expression « la lenteur à la colère ». Ça nous arrive parfois de se mettre en colère, on est des êtres humains, c'est une émotion valide, c'est pour ça que j'ai mélangé les deux. C'est une émotion qu'on peut ressentir, ça peut nous arriver d'être en colère, mais la Bible nous appelle à être comme Dieu qui est lui-même lent à la colère. Même Dieu se met en colère parfois, mais il est lent à la colère. Et il n'y a rien de pire ou de plus difficile de vivre avec quelqu'un qui est colérique, qui explose facilement, qui se fâche, qui dit des paroles blessantes, qui crie. Et en tant que croyant, on est appelé à dire, Seigneur, change-moi, transforme-moi, donne-moi plus de douceur, donne-moi plus de te ressembler davantage. Et on a besoin de s'éloigner de la colère et de devenir lent à la colère. Est-ce que je peux entendre un « ouch » ou un « amen » ? Les relations demandent de l'investissement de soi. Proverbe 27:18. Celui qui soigne un figuier en mangera le fruit. Proverbe 12:11. Celui qui cultive son terrain est rassasié de pain. Et l'idée ici, c'est que lorsqu'on s'investit, lorsqu'on prend soin, on voit un résultat. Et si on veut que nos relations fonctionnent dans la vie, ça prend d'être conscient qu'on a besoin de s'investir dans nos relations. Tu veux que ton couple fonctionne? J'aimerais t'annoncer quelque chose aujourd'hui. Ton couple a besoin de toi. C'est profond, hein? Ton couple a besoin de toi. Tu as un rôle à jouer dans ton couple. Au lieu de blâmer l'autre constamment, qu'est-ce que toi tu peux faire? Qu'est-ce que toi tu peux faire? Ton couple a besoin de toi. Tes enfants ont besoin de toi. Tes amis ont besoin de toi. Et la sagesse, c'est de bien gérer son temps. Le temps est une ressource épuisable qui s'envole constamment et qu'on ne peut jamais rattraper. Avez-vous déjà pensé à ça? On parle maintenant, puis le temps qu'on vit ensemble, ça s'épuise, ça ne reviendra pas, ça vient une fois dans la vie. Et comme croyants, comme chrétiens, nous sommes appelés à choisir comment je gère mon temps, à qui je donne mon temps, à quoi je donne mon temps. Et nous sommes appelés à investir dans ce qui est prioritaire. Qu'est-ce qui est prioritaire? Dieu est prioritaire. On veut donner notre temps à Dieu, sa présence, sa parole, à son Église. Qu'est-ce qui est prioritaire? Notre mariage est prioritaire. Notre mariage est prioritaire. On doit que Dieu nous donne, nous aide à corriger le tir et à s'investir dans notre mariage. Avec du temps, des efforts, de l'énergie, de l'amour, de la patience, ton couple a besoin de toi et ta famille aussi. Les relations qui fonctionnent ne fonctionnent jamais par hasard. c'est pas un hasard. Ah, c'est un hasard, on s'entend bien. Non, les relations qui fonctionnent, elles fonctionnent parce qu'on y met de l'énergie, du temps et de l'effort. C'est un autre amen ou ouch, mais que le Seigneur nous aide là-dedans. Donc ça, c'était juste un petit peu, j'ai écrit quelque chose ici. Ouais. C'est sûr que pour certains d'entre nous, ce point-là demande qu'on réévalue notre vie. C'est sûr qu'on réévalue peut-être que de passer 32 heures par semaine sur un jeu vidéo n'est pas nécessairement le meilleur investissement de mon temps. Puis j'ai rien contre les jeux vidéo. J'aime bien ça, Mario Kart. Peut-être qu'il faut revoir comment on gère notre vie, notre temps. Qu'on puisse être plus réfléchi à, OK, je veux que ça marche, ma relation avec mes enfants, mais peut-être qu'il faudrait que je prenne un moment à chaque jour avec mon enfant. Un 15 minutes, un 20 minutes ou plus avec mon enfant si je veux bâtir une relation avec mon couple. Bas de l'aile, mon couple, je vis des difficultés. Comme plusieurs d'entre nous, mettons, on vit des difficultés parfois dans nos couples. Ça va demander, pour que ça marche, ça va demander que tu y mettes du tien, du temps, de l'énergie. Ça, c'était des conseils généraux. On continue maintenant. Dieu veut qu'on réussisse la relation avec nos enfants. Un proverbe que je vous lis là-dessus, proverbe 22:6, éduque l'enfant d'après la voie qu'il doit suivre. Même quand il sera vieux, il ne s'en écartera pas. Et c'est juste un doux rappel à moi et à tous les parents. Ce qu'on investit dans nos enfants lorsqu'ils sont tout jeunes va avoir un impact pour toute leur vie. C'est tellement important. Tellement important, même quand ils sont bébés, même quand on pense que ça ne donne pas grand-chose. Le temps qu'on donne à nos enfants, l'amour de jouer avec nos enfants, de donner des soins à nos enfants, tout ça a une importance extrême. Et comme parents, on ne doit pas compter sur l'école ou même sur l'Église pour élever et éduquer nos enfants. Hein, je remercie Jésus pour toutes les personnes qui s'impliquent auprès des enfants dans cette Église. Vous êtes précieux, vous sacrifiez des réunions, des fois une semaine sur deux pour vous s'occuper des enfants de l'Église. Wow, merci. Mais les parents, ne pas vous appuyer simplement sur eux. Ils font de leur mieux, mais c'est notre responsabilité d'élever nos enfants dans les voies du Seigneur, de les aimer, d'être là pour eux, d'avoir les discussions importantes avec eux à différents moments, d'être là, d'éviter qu'il y ait des tabous dans nos familles, qu'on parle de tout avec eux, qu'on soit à l'écoute de nos enfants. Tellement important. Puis peu importe si tu as bien réussi ça ou pas dans ta vie, il n'est pas trop tard pour changer cela. Dès aujourd'hui, tu peux prendre une décision de dire, OK, ouais, je peux modifier des choses dans ma vie. Aujourd'hui, ce n'est pas un message pour nous condamner sur ce qu'on a mal fait jusqu'à maintenant. Okay? Le temps y est déjà passé. On a du contrôle sur aujourd'hui et demain, non sur hier. Donc, si hier, tu as fait des erreurs, le Seigneur t'aime, te pardonne, te guérit. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas faire des conseils que les proverbes te donnent? Qu'est-ce que tu vas faire des paroles que tu reçois aujourd'hui? Comment tu vas les appliquer dans ta vie? C'est là, l'enjeu est là. C'est là que ça se passe. On veut aussi réussir notre mariage. Tous les conseils qu'on a vus jusqu'à maintenant s'adaptent, bien sûr, pour le mariage. Quelques éléments supplémentaires pour parler du mariage. Tout d'abord, un rappel des bases par rapport au mariage biblique. Genèse 2, versets 18 à 25. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. » Mais pour lui-même, il ne trouva pas d'aide qui soit son vis-à-vis. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme à partir de la côte qu'il avait prise de l'homme. Il l'amena vers l'homme. L'homme dit, voici cette fois celle qui est faite des mêmes os et de la même chair que moi. On l'appellera femme parce qu'elle a été tirée de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et ils ne feront qu'un. L'homme et sa femme étaient tous les deux nus et ils n'en avaient pas honte. On pourrait prêcher longtemps sur ces textes-là dans la Genèse, on peut développer beaucoup, mais juste quelques rappels rapides. Premièrement, la solitude n'est pas bonne. Dieu nous a créé des êtres pour qu'on soit en relation. Il y a des gens ici, vous êtes célibataire et tu peux très bien être épanoui célibataire, mais ça te prend des relations. Ça prend des gens dans ta vie, des amitiés, des gens avec qui tu développes des liens. Nous sommes des êtres relationnels. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et Dieu a créé l'homme et la femme pour qu'ils soient unis, pour qu'ils soient complémentaires. Dieu bénit cette unité. Dieu bénit le mariage. Et Dieu bénit également la sexualité dans le cadre du mariage entre un homme et une femme. C'est le plan de Dieu. Amen. Et alors que je réfléchissais, que je préparais ce message, j'ai eu cette pensée-là, puis en étudiant aussi, saviez-vous qui a créé le plaisir sexuel? C'est Dieu. C'est Dieu qui nous a créés comme ça. Souvent, comme chrétiens, on passe notre temps à dire, fais pas telle affaire sexuelle, fais pas telle autre affaire sexuelle, évite la pornographie, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon. Mais à la base, là, la sexualité, c'est l'idée de Dieu. C'est Dieu qui a créé la sexualité, oui, pour la reproduction, mais aussi pour le plaisir. C'est le plan de Dieu. Là, je vois qu'il n'y a pas de tabou dans cette église. Juste un rappel, que c'est beau, c'est bon, ça vient de Dieu, ça vient d'en haut, pour un couple, entre un homme et une femme, dans le cadre du mariage. Je continue? Je vais revenir à ça, ne vous inquiétez pas. Proverbe 21:19. Mieux vaut habiter dans une terre déserte qu'avec une femme querelleuse et irritable. Et juste pour être sûr, on peut dire aussi avec un homme querelleur et irritable. Ça existe. OK? D'accord? Je pourrais être personne. Ça existe. Comment peut-on faire pour ajouter de la paix dans nos foyers? Ça m'appelait à avoir des maisons, des foyers où il y a de la paix. Comment on peut augmenter la paix? Et là, je vais prendre un risque immense. Je vous pose vraiment la question, puis tu as le droit de répondre en levant la main. Comment on peut augmenter la paix dans nos foyers? Que ce soit plus paisible. Tu peux lever ta main et répondre oui. Le respect. En plus, ça rime. D'autres choses?
L'honnêteté.
Honnêteté, oui. Oui? Être à l'écoute.
La douceur.
Douceur. Confiance, oui.
Bonne relation avec Dieu.
Bonne relation avec Dieu.
Amen.
Oui. Oui.
Le partage.
Oui. Rendre service, les services, excellent, oui.
Le choix de tonalité,
oui. Mieux vaut parler en mi. Je comprends ce que vous dites. De pas parler en criant, etc. La douceur dans notre voix, dans nos paroles. Avez-vous d'autres idées? Comment on peut faire pour augmenter le niveau de paix dans nos maisons? On vit dans un monde qui n'est vraiment pas paisible. Ça serait le fun que, comme chrétien, qu'on trouve des façons d'augmenter la paix chez nous.
Le pardon.
Pardon. Compréhension.
Sincérité.
Patience. Sincérité.
La confiance.
Hey, des prédicateurs dans ce lieu! Woo! Il a dit « Prédicateur à Drummondville ». Tous vos points sont extrêmement bons. Quelques exemples pratiques aussi qu'on peut ajouter. Ça peut être bien de prendre comme habitude, si possible, de manger ensemble, autant que possible. Hein? De s'asseoir ensemble, de manger ensemble, plutôt que de manger rapidement. Ça peut être une fois par jour, ça peut être une fois ou deux jours, peu importe, selon votre vie, si c'est possible. Si on enlève un peu d'écran dans nos maisons, ça peut aider aussi à se rapprocher les uns des autres. Choisir ses batailles. Hein, il y a des éléments qui ne vaut pas la peine qu'on se crie dessus. Hein, puis ça, c'est bien d'essayer d'enseigner ça à nos enfants aussi. Là. Mais de choisir nos batailles, de ne pas faire une tempête dans des verres d'eau. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est des fois, des petites affaires qui sont mineures, on peut juste éviter d'être offensé par une affaire mineure, puis pardonner rapidement, puis avancer. Hein, exiger le respect dans nos interactions les uns avec les autres, quelqu'un l'a dit. De prier, s'approcher de Dieu, de prier ensemble aussi. De faire des efforts pour être plus doux, plus patient. Hein, plus de paix dans nos foyers, tellement important. Je reviens à la sexualité maintenant. Proverbe 7:7. Hein, la Bible nous enseigne à rechercher la pureté sexuelle. J'ai vu parmi ceux qui manquent d'expérience, j'ai remarqué parmi les jeunes gens un jeune garçon dépourvu de bon sens. Il passa dans la rue près de l'angle où se tenait une de ses femmes. Il prenait le chemin de sa maison, c'était au crépuscule, en fin de journée, au moment où viennent la nuit et l'obscurité. Proverbe 16, 30. Celui qui ferme les yeux pour méditer des pensées perverses, qui se mord les lèvres, a déjà accompli le mal. Proverbe 6, 24. Flatterie de l'inconnu, ne convoite pas sa beauté dans ton cœur, ne te laisse pas prendre par ses œillades. En effet, pour la femme prostituée, on se réduit à un morceau de pain, et la femme mariée capture une vie précieuse. Peut-on prendre du feu contre soi sans que les habits ne s'enflamment? Peut-on marcher sur des charbons ardents sans se brûler les pieds? Et la Bible nous invite à jouir de la sexualité dans le cadre de notre mariage, mais vraiment d'être exclusif, d'être différent de ce qui est véhiculé dans notre société, de faire attention au flirtage avec les gens qui ne sont pas notre conjoint, notre conjointe, attention à nos pensées, l'infidélité, la pornographie aussi, on va en parler dans un instant. Tellement, il faut que nos standards soient plus élevés que ceux de la société quand on parle de sexualité. Il faut qu'on ait un standard plus élevé, un standard qui rejoint ceux de la parole de Dieu. Il faut que notre vie chrétienne dépasse la façade et l'apparence. Il faut que ça se voit aussi quand personne nous voit. Il faut que notre vie chrétienne se voit dans le privé, de nos maisons, devant nos ordinateurs, etc. Que Dieu nous aide dans la pureté sexuelle. Un des fléaux majeurs, actuellement et depuis longtemps maintenant, c'est la pornographie. Fléau majeur, une industrie monstre de milliards et de milliards de dollars qui encourage l'exploitation sexuelle. Aujourd'hui, je fais une petite parenthèse. Comment on peut devenir libre de la pornographie? J'ai vu un post de mes amis pasteurs de la chapelle, de l'église de la chapelle cette semaine qui parlait de ça. J'ai trouvé ça intéressant. J'ai juste repris ici pour faire une petite parenthèse. Pourquoi la pornographie est-elle mauvaise? Elle déshumanise les gens. Elle altère le cerveau. Elle détruit notre capacité à l'intimité. Elle est un mauvais professeur. Elle blesse le cœur de Dieu. Et sept habitudes pour se défaire de la pornographie. Tout d'abord, la repentance. Ça commence par « Je reconnais que c'est mal, je te demande pardon, Seigneur. » Je te demande pardon, Seigneur. Ensuite, la redevabilité. On est une famille chrétienne, on a un corps chrétien de Christ. On peut trouver quelqu'un à qui on s'ouvre et qui est notre partenaire de redevabilité, à qui on dit « J'ai tel problème dans ma vie, peux-tu m'accompagner? Est-ce qu'on peut en parler? Est-ce qu'on peut prier ensemble? » De s'ouvrir à quelqu'un peut vraiment ouvrir une porte dans ta vie vers la liberté. Hein? Ils ont écrit aussi le rebound, à faire le choix de ne pas regarder ce qui est inapproprié. Le rebound, c'est que, au lieu de regarder, c'est que quand tu vois quelque chose d'inapproprié, c'est que tu rebondis. D'accord? Donc, l'été arrive, tu marches dans la rue, et tu rebondis. D'accord? Oups, tu rebondis. Bientôt, on va même s'acheter des œillères de chevaux comme ça, là. Et on a un pouvoir sur nos yeux. Hein, je peux regarder par là si je veux. Oh, je peux regarder par là si je veux aussi. Et on a le pouvoir de se détourner. Okay? Et donc, ça, c'est un autre élément. De renouveler nos pensées, de remplacer nos pensées perverses par d'autres pensées qui sont pures. De résister et de veiller face à la tentation. De réaliser la grâce de Dieu, que Dieu t'aime, que Dieu te pardonne lorsque tu lui demandes pardon, que tu es précieux à ses yeux, que tu n'as pas de moindre valeur dans la vie parce que tu as un problème de pornographie ou de dépendance à autre chose. Tu es aimé, tu es pardonné, et de revenir à Dieu rapidement. Et bien sûr, de nourrir une relation avec Dieu réelle, sincère, va te donner de la force pour résister aux tentations qui peuvent venir dans ta vie. Et l'autre texte d'avant, tantôt, disait qu'on ne peut pas tenir du feu contre toi, contre soi, sans se brûler. Et c'est une évidence qu'il faut se libérer de la pornographie si on veut briller pour Dieu, si on veut être un mari aimant, si on veut être un père, un modèle de père. Il faut que ça sorte de nos vies. Et je vais faire cette parenthèse là-dessus, parce que je peux entendre un grand « Amen » ce matin. Un texte vraiment formidable dans les Proverbes, un de mes textes préférés dans les Proverbes, Proverbes 5, verset 15 jusqu'à 20. Regardez bien ce que ça dit. Hein, ça fait l'éloge, justement, et ça met de l'avant la beauté de la sexualité entre un homme et une femme dans le cadre du mariage, dans un couple. Ça dit « Bois à l'eau de ta citerne, l'eau qui sort de ton puits. Tes sources doivent-elles se déverser à l'extérieur? Tes ruisseaux doivent-ils couler sur les places publiques? Qu'ils soient pour toi seul et non pour des étrangers avec toi. Que ta source soit bénie. Fais ta joie de la femme de ta jeunesse. Biche des amours, gazelle pleine de grâce. Que ses seins te rassasient constamment. Enivre-toi sans cesse de son amour. Pourquoi, mon fils, t'enivrerais-tu d'une étrangère et embrasserais-tu la poitrine d'une inconnue? » Hey, c'est bon, la Bible, hein? Ici, le Seigneur, dans sa parole, nous rappelle que c'est beau la sexualité, qui nous appelle à tout notre amour, tous nos désirs, besoins, tout ce qui est sexuel, que c'est beau, que c'est de Dieu et que c'est appelé à se développer dans le cadre du mariage. Et je sais que ça peut être un sujet qui est sensible. Je sais qu'il y a une multitude de facteurs autour de tout cela. Et quelques conseils en rafale également pour améliorer notre passion et intimité dans notre vie de couple. Passer du temps ensemble pour la connexion émotionnelle. Ça va de soi. Il faut qu'on ait du temps ensemble. Faire des sorties ensemble. Resto, ciné, marche en nature, etc. Ce que vous aimez faire. Respecter l'autre dans les saisons de sa vie. Hein? Éviter de mettre la pression sur l'autre. Respecter qu'il y a des saisons. Il y a des saisons dans la vie d'un homme, d'une femme, des stress parfois. D'être respectueux, doux, sensible, sans mettre de pression sur l'autre. Mesdames, dites amen. Messieurs aussi. Hein? L'idée d'avoir des rendez-vous hebdomadaires peut être une bonne idée. Des rendez-vous où on sait que là, on est ensemble. Bon, on va se rapprocher possiblement. Ça peut être bien. Parce que dans la vie qu'on a en ce moment, là, on court, on est occupé, on travaille, on est fatigué, on s'occupe des enfants, on va dans tous les sens. Et si on ne le planifie pas et on ne l'organise pas, ça se peut qu'il n'y ait pas vraiment de moment cœur à cœur et corps à corps. D'accord? Partir à l'occasion pour un week-end sans enfants. Ce que vos enfants ont besoin, c'est des parents qui s'aiment. Oui, on veut donner du temps à nos enfants, mais la priorité dans l'ordre des choses, c'est Dieu, mon couple et après mes enfants. Il faut faire attention de ne pas mettre les enfants avant notre couple. Parce qu'eux ont besoin d'un couple qui s'aime. S'embrasser régulièrement, se faire des câlins, se donner des cadeaux, se dire des paroles gentilles d'encouragement, se rendre des services. La vaisselle peut être un très bon allié dans votre vie d'intimité. Laver quelques assiettes peut vraiment faire du bien à ta vie de couple. Ma vision pour cette église, c'est que nos couples soient en santé, que nos couples soient guéris, que nos couples soient restaurés. Et on vit tous, moi le premier, on vit tous des épreuves de couple. On vit tous des moments creux, des moments difficiles, des moments où on ne se comprend pas, des moments, des fois, où on a peur que ça brise. Et certains d'entre vous, vous avez un couple qui s'est brisé. Et j'aimerais vous dire qu'il y a de l'amour, de la grâce dans ce lieu. Et on veut refléter Jésus par notre vie intime et par nos couples, que les gens qui nous entourent voient combien on s'aime, voient son amour à travers nos vies. Est-ce que vous êtes là ce matin? Je termine avec le dernier point qui est réussir ses amitiés. Tellement important. Avez-vous remarqué ceux qui ont lu les proverbes, combien il y a de références aux amitiés? Hein? Occasionnellement, il y a des versets qui nous parlent de nos amitiés et je trouvais ça vraiment important de les mentionner ce matin avant qu'on aille à la fin du message qu'on prie ensemble. Proverbe 17:17, l'amour. L'ami aime en toutes circonstances et dans le malheur, il se montre un frère. Tu veux réussir tes amitiés, tes relations avec les autres, et ça prend un amour inconditionnel. Ça prend d'être présent dans les moments difficiles des gens qui t'entourent. Quelqu'un vit un accouchement difficile, une maladie, un conflit, une séparation, un divorce, un deuil, un problème avec ses enfants, un problème de santé mentale, un burn-out. Qu'on puisse être là envers nos amis lorsqu'ils ont des difficultés. C'est simple. Mais c'est ça fait toute la différence. On a tous vécu des difficultés dans nos vies, peut-être que tu en vis en ce moment. Moi, j'ai un souvenir dans ma vie, j'étais dans Charlevoix, et j'étais pasteur, j'étais toute seule, pasteur d'une petite église. Je faisais de mon best, et là, il faisait noir, c'était le mois de novembre, et je vivais du découragement. Est-ce que je suis le seul qui vit ça des fois, du découragement, de la déprime? Hein, qu'on dirait qu'il y a un nuage noir qui nous suit partout. J'étais découragé, et puis je me sentais comme si j'avais le goût de tout lâcher. Et je me rappelle avoir eu l'occasion d'avoir quelques moments avec des amis durant ce moment de noirceur. Ça a fait toute la différence. D'avoir des gens à qui je peux parler, des gens qui m'écoutent, des gens qui prient pour moi, ça fait toute la différence. On veut être des amis présents dans les moments difficiles. Conseil suivant. La qualité surpasse la quantité en matière d'amitié. Bien choisir est primordial. Proverbe 18, 24. Celui qui a beaucoup de compagnons les a pour son malheur, mais il y a des amis plus attachés qu'un frère. Proverbe 13, 20. Celui qui marche en compagnie des sages devient sage. Celui qui fréquente des hommes stupides se retrouvera en mauvaise posture. Et l'amitié n'est pas un concours. Celui qui a le plus d'amis, c'est non plus une collection. On ne collectionne pas les amis. Mieux vaut quelques bons amis que 50 amis que bas. Hein, il y a des niveaux dans l'amitié. Il y a des amis plus proches, d'autres un peu moins proches. Et c'est correct qu'il y ait ces différents niveaux-là. Mais la qualité est importante. J'aimerais vous dire aussi, c'est OK de délaisser des amitiés qui sont nuisibles pour nous. Hein? Des fois, on va être là pour l'autre, mais des fois, ça nous tire vers le bas, ça nous épuise, ça nous fait du tort. Des fois, pour se protéger, c'est bien de mettre un terme à certaines amitiés. Que Dieu nous donne la sagesse de savoir quand se déconnecter, puis quand rester et poursuivre cette amitié que nous avions. C'est toujours là. Veillez sur nos amis. Osez parler des vraies affaires. Regardez bien le prochain proverbe pendant que j'invite les musiciens à s'avancer. On arrive vraiment à la fin. Proverbe 27, 5. Mieux vaut un reproche ouvert qu'une amitié cachée. Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, tandis que les baisers d'un ennemi sont trompeurs. L'huile et les parfums réjouissent le cœur, et la douceur d'un ami vaut mieux que nos propres conseils. N'abandonne pas ton ami, ni celui de ton père, et n'entre pas dans la maison de ton frère le jour où tu es dans la détresse. Mieux vaut un voisin proche qu'un frère éloigné. Quelques éléments là-dedans. On parle ici de reproches ouverts, de blessures d'un ami, de ne pas abandonner ses amis et aussi de la douceur d'un ami. Une vraie amitié, c'est quand on peut se dire les vraies affaires. C'est quand on peut se dire les vraies affaires. Pas juste « ça va, oui, ça va, ta job, ça va, oui, ça va, ta piscine, ça va, oui, ça va. » Qu'on puisse rechercher une certaine profondeur dans nos relations amicales. Qu'on puisse oser parler à nos amis s'il y a quelque chose qui ne va pas. Si on remarque qu'il y a de quoi qui ne marche pas. Qu'on puisse laisser notre cœur ouvert aussi à nos amis de parler dans notre vie. De nous dire des affaires, c'est des affaires qui ne vont pas. Si moi je vois un de mes bons amis qui s'éloigne de Dieu, qui s'éloigne de l'Église, je vais lui en parler. Je vais lui dire, « Hey, ça fait 3 mois que je ne t'ai pas vu à l'Église. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça va? » Ce ne sont pas des affaires qu'on aime se faire dire. On aime mieux que les autres se mêlent de leurs affaires. Vous êtes d'accord? Mais un ami va oser te parler des vraies affaires. Si j'ai un ami à moi que je vois flirter ou être trop amical avec une autre femme qui n'est pas sa femme, je vais aller le voir. Je vais dire, « Man, je pense que tu étais un peu trop proche d'elle. » Ta femme n'était pas là, mais moi, j'étais là, puis « i ». Mais suivez-vous. En tant qu'ami, il faut qu'on puisse avoir le droit de parler des vraies affaires avec nos amis. Et il faut qu'on puisse être prêt aussi à recevoir des paroles directes de la part de nos amis. C'est moins facile, ça, mais le faire aiguise le fer. Ça nous fait du bien en bout de ligne. Des fois, ça peut nous blesser sur le coup, mais ça nous fait du bien. En bout de ligne, ça nous transforme. Puis dernièrement, ce matin, ça s'applique à toutes nos relations. Nous sommes appelés à pratiquer le pardon. 17.9. Celui qui couvre une offense recherche l'amour. Celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis. Dans toutes nos relations, ça prend le pardon. Relation de couple, ça prend le pardon. Relation familiale, ça prend le pardon. Amicale, avec les gens de l'Église, nous avons besoin d'apprendre à relâcher, pardonner, à demander pardon, à recevoir le pardon, à accorder le pardon. On a besoin de grandir là-dedans parce qu'on n'avancera pas. Parce que si on n'accorde pas le pardon, on ne demande pas le pardon, nous allons nous isoler et nous allons devenir amers et aigris et nous éloigner éventuellement de nos relations qui pourraient nous faire du bien. Pardonnez. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous donne cette force. Donc, ce matin, vous avez vu, c'était en rafale. Il y avait beaucoup de choses. Je vous relis rapidement les titres de tout ce que j'ai dit ce matin. Par la suite, on va prier ensemble. On a vu plusieurs conseils. Être à l'écoute des autres. Veiller sur nos paroles. Voir au-delà des apparences. Que les relations nous forgent et nous forment. De faire attention à l'alcool. D'être lent à la colère. De se maîtriser. Que les relations demandent un investissement de soi. De prendre au sérieux son rôle de parent. On a rappelé les bases de ce qu'est un couple biblique. On a vu également comment on peut améliorer la paix dans notre foyer. De rechercher la pureté sexuelle. De se libérer de la pornographie. De retrouver la passion et l'intimité dans notre couple. On a parlé d'amour inconditionnel. D'être là dans les moments difficiles. De la qualité avant la quantité dans les amis. Et de veiller sur nos amis et de pratiquer le pardon. Est-ce que ces conseils nous aident ce matin? Moi, ça m'aide. Moi, ça m'aide. Moi, ça me donne un... On peut applaudir le Seigneur. Alors que je préparais ce message, j'ai eu une pensée à un moment donné. Seigneur, il me semble qu'il manque de spirituel là-dedans. Puis le Seigneur me parlait dans mon cœur, puis j'ai vraiment ressenti que non, c'est extrêmement spirituel, que c'est extrêmement important, que ça doit être adressé dans l'Église. Parce que à quoi les gens vont reconnaître qu'on est des chrétiens, qu'on est des disciples? Quelqu'un le sait? À l'amour qu'on a les uns pour les autres. Jean 13, 35. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. 1 Pierre 1:22, ayant purifié vos âmes en obéissant à la parole pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Une église qui avance, une église qui est en mission, c'est une église qui travaille sur ses relations, qui accepte d'améliorer ses relations dans son couple, dans sa famille et dans l'église également. Si tu cries toujours après ta femme ou après ton mari, puis tes voisins t'entendent crier, puis à un moment donné, tu invites ton voisin à venir à l'église à un spectacle de Noël, qu'est-ce qu'il va se dire? Il va se dire, j'irai pas à ton église, toi qui cries après elle ou toi qui cries après lui. Hein? Notre vie intime, notre vie relationnelle est appelée à être un témoignage d'évangélisation pour les gens qui nous entourent. Combien d'églises sont bloquées parce que dans l'église, il y a un problème au niveau des relations. Hein, parce qu'on se critique, on se juge, on s'espionne, on est mesquin, on est méchant. Quelqu'un arrive à l'église, le pasteur prêche l'amour de Jésus, puis il voit dans les chrétiens la mesquinerie, la méchanceté, le jugement, puis il s'en va. Parce qu'il se dit, mais non, le message ne suit pas ce que je vois. Êtes-vous là? Que le Seigneur nous donne de l'amour. Que le Seigneur renouvelle notre amour. Est-ce qu'on peut tous se lever ensemble ce matin en terminant? On va chanter un chant juste avant de terminer, d'aller manger des beignes, de faire des photos de quatre roues. On va chanter un chant, d'accord? On va se confier au Seigneur ce matin. Peut-être que vous avez, ce matin dans ce lieu, il y a des gens qui vivent toutes sortes de difficultés, problématique ou il y a un élément qui ne va pas trop dans une de tes relations. Et ce matin, je t'invite à demander l'aide de Dieu. Parce que par nous-mêmes, nous sommes bien faillibles. Par nous-mêmes, on va faire des erreurs. On va en faire d'autres erreurs, bien sûr. Mais on veut que le Seigneur nous aide, nous donne sa force, nous donne son soutien pour améliorer nos relations de couple, améliorer nos relations amicales, familiales, etc. Combien vous voulez vous joindre à moi et dire, Seigneur, aide-moi donc. Aide-moi, Seigneur, aide-moi à être un meilleur père, un meilleur époux, une meilleure épouse, un meilleur frère, un meilleur ami. Aide-moi, Seigneur, viens à mon secours. Viens guérir mon cœur qui est brisé pour certains d'entre nous. Viens guérir mon cœur qui a été tellement brisé, tellement blessé par des amitiés, par un couple dans lequel j'étais. Viens me changer, Seigneur. Viens me faire du bien. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de ton aide. Est-ce qu'on peut tous s'approcher de Dieu ce matin et implorer son aide, implorer son secours, implorer son pardon? Peut-être que certains d'entre vous, c'est l'élément de la pornographie que vous avez besoin de vous libérer. Viens devant Dieu, il te pardonne. Il t'aime, il veut te conduire dans un chemin de liberté aujourd'hui. Approchons-nous de Dieu en terminant. Qu'il n'y ait pas de spectateurs dans ce lieu. Qu'on soit tous des participants, qu'on puisse tous s'approcher de Dieu. Lui confier nos vies, lui confier nos couples, lui confier nos enfants, lui confier nos amis.